IDFM Radio, par nous, pour nous. Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, la plus belle des radios valdoisiennes en Île-de-France, en FM sur 98.00, web radio sur 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli mobile. Jacqueline Voraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Les violences intrafamiliales ne sont ni des faits divers, ni des drames privés. Elles sont une réalité sociale, systémique, qui concerne toutes les générations et tous les milieux. Chez IDFM Radio, ce combat est de longue date. Depuis ce matin, nous allons plus loin encore. Dans le cadre de notre partenariat avec la mission locale de Montmorency, nous diffusons désormais des spots de prévention réalisés par les jeunes de cette mission locale. Des spots pour alerter, prévenir et surtout rappeler que des solutions existent. Comprendre les mécanismes de l'emprise, connaître ses droits, savoir vers qui se tourner. Aujourd'hui, mardi 13 janvier 2026, c'est l'objectif de cette émission spéciale « Lutte contre les violences intrafamiliales ». Un thème qui me permet d'accueillir dans nos studios Mariam Baraka, fondatrice et directrice de MSF 95, Maison Solidarité Femmes 95. Bonjour Mariam.
Bonjour Jacqueline.
Céline Marcovici, avocate au barreau de Paris, auteure de « Madame, il fallait partir » et co-auteure du guide juridique des femmes victimes de violences. Mais nous en parlerons plus longuement tout à l'heure. Présidente de l'association Avocats, Femmes et Violences. Et mon troisième invité, Benoît Lemogne. Bonjour Céline, pardon.
Bonjour Jacqueline.
Je suis perdue là, j'ai oublié de vous dire bonjour. Et Benoît Lemogne, fondateur et dirigeant de Divorce Consulting. Bonjour Benoît.
Bonjour Jacqueline.
Bienvenue chez IDFM Radio et merci d'être les invités en direct de l'économie en direct.
En Île-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Alors, Mariam Baraka, pouvez-vous nous présenter la Maison Solidarité Femmes 95 et les missions que vous portez au quotidien ?
Alors, l'association Maison Solidarité Femmes 95 est un lieu refuge pour toutes les femmes à partir de 18 ans qui ont vécu ou qui vivent des violences conjugales et ou intrafamiliales, avec un focus un peu particulier sur les femmes en situation de handicap qui statistiquement sont deux fois plus exposées à toute forme de violence. Alors, ce que nous proposons, c'est un accompagnement global avec une équipe pluridisciplinaire. Nous allons balayer tous les volets, tous les besoins de sa vie, y compris sa protection et son exfiltration pour la mettre en sécurité avec ses enfants si elle en a. Voilà. Et cette association est au cœur de Cergy, au cœur du Val d'Oise. Et voilà, elle est aujourd'hui à la disposition de toutes les femmes qui en ont besoin.
Une association qui a été créée, ça va faire 2 ans maintenant?
Exactement, on est sur notre deuxième année, effectivement. Et puis le deuxième volet, c'est vrai que Jacqueline, tu me fais rebondir, le deuxième volet, c'est l'insertion. Parce qu'il y a un temps à la déconstruction et puis il y a un temps à la résilience et à la reconstruction. Et ça passe par l'autonomie des femmes. Et l'autonomie, elle passe par l'emploi. Et donc nous avons deux dispositifs qui permettent de remettre en selle, si je puis me permettre l'expression, les femmes, pour qu'elles puissent rentrer dans le monde du travail le plus sereinement possible et le plus durablement possible.
Alors avec vous trois, on va évoquer plusieurs formes de violence conjugale, puisqu'elles ne sont pas uniquement physiques. Vous, Mariam, vous pouvez nous expliquer déjà certaines formes de violence.
Alors j'ai envie de te dire, Jacqueline, dans 100% des cas, les femmes ne vivent pas qu'une seule violence. Mmh. On parle de violence plurielle, on parle de pluriforme. Il y a bien sûr les violences physiques, celles qui se voient, et puis il y a toutes celles qui sont insidieuses et qui ne se voient pas, notamment la violence psychologique, qui est au quotidien et qui crée un climat de tension et de terreur. Bien sûr, elle est associée à la violence verbale, mais à cela, il y a aussi une violence qui est récemment reconnue par le système juridique, qui est la violence économique, qui est celle où on prive justement l'accès à l'emploi, l'accès aux ressources du foyer, où on contrôle tout, le moindre centime qui va sortir du domicile. Et là, effectivement, cette violence-là, elle permet l'emprise. C'est là où, en fait, la toile se tisse, et c'est là où, effectivement, il y a une forme de dépendance à l'autre. Et du coup, quitter le domicile devient beaucoup plus compliqué. Voilà. Bien sûr, on peut aussi parler de violence sexuelle sur cette notion de consentement. Quand on est marié, où est la ligne entre le devoir et le consentement? Est-ce qu'on peut se permettre de dire non quand on n'a pas envie un soir? Et puis le non, est-ce qu'il est entendu de la part du conjoint? Et quand il n'est pas entendu, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça s'appelle un viol conjugal. Voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est reconnu aussi pénalement, mais je laisserai, je laisserai notre invitée avocate parler de ce domaine-là. Mais voilà, les formes, en fait, toutes les formes de violence ont un impact, en fait, sur les victimes, et elles sont nombreuses. Il y a aussi des privations. Voilà, quand on peut les priver de leurs besoins physiologiques. Enfin, on entend des choses absolument. Vous savez, moi, ça fait des années que je suis dans ce domaine-là. Aujourd'hui, ça fait près de 15 ans que je traite la question des violences. Et je me dis que, au quotidien, je suis suffisamment armée, outillée, à la fois psychologiquement et intellectuellement pour pouvoir accueillir le récit des femmes. Et puis vient une histoire qui va complètement bouleverser ce mécanisme-là et de dire, ah, ça aussi, ça existe. Mm-hmm. Quand on met un cadenas sur un frigo, quand on empêche la personne de se laver, ou quand on lui coupe le chauffage et qu'elle est obligée de se doubler les vêtements pour aller ses enfants parce que, il faut pas de chauffage à la maison. Et bien là, on se dit, jusqu'où, en fait, l'humain peut aller. Et ça, c'est le quotidien des femmes que nous accueillons.
Oui, on a du mal à imaginer ce genre de situation, mais malheureusement, elles existent.
Elles existent.
Et tu me dis tu, je te dis tu, du
oui,
coup.
C'est vrai que moi, je savais plus.
Oui. Toi, tu es vraiment, tu te tournes vers les personnes, les femmes en situation de handicap. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'elles sont encore plus exposées et peut-être moins entendues?
Mais clairement, elles sont vraiment les invisibles du système. Aujourd'hui, pour vous donner deux chiffres qui pour moi sont parlants, quand une femme sur cinq est exposée à une agression à connotation sexuelle, c'est une femme sur deux en situation de handicap. Et 88% des femmes en spectre autistique ont subi au moins une fois une agression à caractère sexuel. Voilà, et la violence, elle est partout, tout le temps. Elle peut être dans la famille, dans la rue, au sein du travail, quand c'est en milieu protégé. Ces femmes-là, en fait, sont très éloignées des parcours sociaux. Elles ont peu de ressources, elles ont peu de moyens d'accéder à ces lieux-là. Et le plus dramatique, c'est cette dépendance au handicap. Voilà, c'est quand le handicap devient sa propre prison, alors qu'elle le subit. Ce que je vois, moi, dans les femmes que nous accompagnons aujourd'hui, on n'est pas loin des 500 victimes, femmes et enfants, tout confondus, en un an d'activité, ce qui est absolument énorme pour la taille de notre association. Ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que le handicap peut être la cause ou la conséquence. J'ai des femmes qui vivent pendant des années dans des climats de tension et terreur, vont déclencher des tumeurs, par exemple, des tumeurs du sein, des tumeurs l'estomac, du foie, métastasées parfois. Et puis, il y a des femmes qui vont bien, et puis tout d'un coup, un accident de la vie, un handicap se déclenche, et là tout d'un coup, la vie bascule dans la violence parce que justement, elle est différente et que de la part de l'auteur, c'est pas acceptable. Mm-hmm. Voilà. Donc le handicap est vraiment aujourd'hui un angle mort institutionnel. J'ai pas honte de le dire. Il faut pas avoir honte de le dire. Il y a un diagnostic territorial qui est en cours par un docteur en sociologie, Samir Lamouri, qui travaille pour MSF 95 pour lancer cette cartographie de notre territoire, pour avoir des données scientifiques. Et je pense que aujourd'hui, il y a une table réflexive à avoir sur ce sujet-là. C'est essentiel.
Mariam, tu as évoqué les enfants. Donc, quelle est la place des enfants dans ces situations de violence conjugale telles qu'elles sont décrites?
Alors, les enfants ne sont plus des dommages collatéraux, ils sont des victimes directes. Mmh. Voilà, depuis le traité d'Istanbul en 2014, la France a ratifié un traité qui dit qu'aujourd'hui, les enfants sont des victimes à part entière, ils sont considérés comme des victimes à part entière. Les dégâts sont considérables. À court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, on va avoir des dégradations sur l'apprentissage, des dégradations moteurs, des dégradations psychologiques, un système nerveux qui va être extrêmement endommagé, des troubles de la concentration majeurs qui peuvent se rapprocher d'un spectre autistique. Les enfants qui sont exposés très très jeunes aux violences, et je parle pas de violences directe sur sa personne, c'est juste être témoin d'un climat de tension, être témoin d'une maman qui est au quotidien mise à mal par son conjoint. Et puis sur du long terme, eh bien, ça fait des schémas reproductifs. Parce que on a comme phénomène, comme mode de fonctionnement, comme mode de langage, comme mode de communication, comme mode d'idéal qu'un papa qui est violent.
Hein.
Donc forcément, on reproduit. Et ce qu'on reproduit, ce sont des auteurs aujourd'hui. Dans 100% des cas, et je laisserai les invités en parler également, je pense qu'ils me rejoindront, dans 100% des cas, quand on vient décrypter le profil de l'auteur, puisque chez MSF 95, il est au centre de nos préoccupations, parce que sans ça, on ne peut pas parler de déconstruction de l'emprise et on ne peut pas parler de sortie de l'emprise. Il faut comprendre comment fonctionne le conjoint. Mmh. Et pour comprendre comment fonctionne le conjoint, il faut remonter plus loin. à ses carences, à ses vides, à ce qui lui a manqué, à ce qu'il a subi lui-même, à ce qu'il a été témoin lui-même. Et c'est toutes ces carences-là, ce sentiment d'abandon, ces frayeurs qu'il a en lui, qui se sont, je dirais,
cristallisées,
et forcément elles se reproduisent plus tard à l'âge adulte. Donc plus tôt on va venir poser des mots. Et c'est ce qu'on fait à travers les ateliers d'enfants tous les mercredis en dehors des vacances scolaires chez MSF. Je suis ravie que ça a commencé au mois de septembre grâce au soutien de la CAF du Val d'Oise. Chaque mercredi, on a 4 professionnels de la protection de l'enfance qui sont là sur des groupes de 5 à 11 ans qui vont poser des mots sur l'anormalité de la situation, sur ce qui se passe entre papa et maman, sur les émotions qui en découlent. J'ai honte, j'ai peur, je suis coupable. Je sais qu'ils se disputent à cause de moi parce que j'ai pas eu une bonne note à l'école. Mais parce que j'ai pas eu une bonne note à l'école, parce que j'ai mal dormi, parce que j'ai entendu papa frapper maman la nuit ou je l'ai entendu lui crier dessus la nuit. Donc vous voyez, il y a tout un environnement qui fait que on a besoin de poser des mots et puis on leur donne quelques clés de gestion d'émotion parce que c'est important de savoir où est-ce que ça fait mal et comment potentiellement on peut apaiser ça. Et puis un dernier point dans ces ateliers-là, c'est le lien mère-enfant, ce qu'on appelle nous dans notre jargon la dyade mère-enfant, le binôme mère-enfant. Il est extrêmement mis à mal. La parentalité de madame est extrêmement mise à mal puisque on vient systématiquement lui reprocher son mode éducatif et son mode de fonctionnement. Et bien dans ces ateliers-là, on va venir reconstruire du lien de confiance, on va venir reconstruire du lien d'amour et on va pouvoir créer du dialogue à travers l'art thérapie. Donc on n'a pas besoin d'avoir un dialogue verbal, mais c'est plutôt un dialogue manuel et artistique. On travaille l'argile. Il y a des choses surprenantes qui ressortent de là. On a des enfants qui arrivent complètement crispés et qui ressortent dans les bras de leur mère et complètement détendus. Donc comme quoi aujourd'hui il y a des professionnels, il y a des méthodologies, il y a des approches neuropsychologiques, neuroscientifiques qui nous permettent de traiter la question des violences, parce que la question des violences, elle a un impact énorme sur la santé mentale. Voilà.
Mariam, je crois que ça présage d'un débat riche dans les minutes à suivre, parce que tu viens d'évoquer des thèmes que nous avons abordé avant le début de l'émission, donc merci infiniment. Je propose qu'on fasse une pause, on laisse un peu de place à la musique avec Angèle et son titre Tempête, des mots forts précisément pour parler des violences faites aux femmes.
Elle ouvre les yeux et regarde à terre, peureuse elle regarde à terre, elle lui promet que c'était la dernière, et elle ramasse ses affaires, pour une envie si humaine, d'avoir voulu être libre, et c'était pas la première. La première crise, si c'est vrai, tu ne lèves jamais la main. Tu seras un très bon père et meilleur sera demain. Et de mieux en mieux, évidemment que ce sera de mieux en mieux. Un jour ce sera joyeux, mais en attendant de subir le feu. Encore une tempête, encore une alerte, l'orage et la guette. Et ça va sur elle. Encore une tempête, encore une alerte. Sa rage la guette. Les bleus saillants, c'est juste une belle couleur, plus douce que celle de ses yeux. Quand il se met en colère, ça continue de durer. Alors qu'elle lui dit, on ne s'aime plus comme avant. Il continue dans son déni, il dit qu'ils vont de l'avant. J'ai été folle de t'aimer si fort, folle d'aimer fort. On fout la peur, la guette quand il crie trop. Quand il se jette à son cou, de mieux en mieux. Quand elle n'aura plus à courir derrière eux, un jour ça sera joyeux. Mais en attendant, personne ne voit son jeu. Encore une tempête, encore une alerte. L'orage la guette.
Encore une tempête, encore une alerte. L'orage et la guette, ça rage la guette. terre pour une envie si humaine d'avoir voulu être libre. Toujours à elle qu'ils s'en prennent. Le danger demeure et les brise, espérant qu'il n'y aura pas de prochaine. C'est toujours ça d'espérer qu'on n'ait pas chanté de requiem.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
C'est IDFM Radio, l'économie en direct, une émission aujourd'hui consacrée aux violences intrafamiliales. Et nous étions en train d'interviewer Mariam Baraka, fondatrice de Maison de MSF, Maison Solidarité Femmes 95. Mariam, récemment, tu as lancé le violentomètre, violence et handicap. Pourquoi était-ce indispensable?
Parce que cet outil permet de libérer la parole. Il permet de mesurer la gravité de la situation. Il permet de poser des mots. Et ça, quand on est en situation de handicap, c'est indispensable. D'abord, c'est indispensable pour toutes les femmes. Le violentomètre existe depuis maintenant une dizaine d'années. Depuis les années 2000, il a été lancé en Amérique du Sud. Et puis, depuis une dizaine d'années, il est en France. Et celui sur le handicap, il n'existait pas parce qu'il a la particularité d'être en falque, donc en facile à lire et à comprendre, donc des phrases construite de manière lisible pour les personnes qui sont de manière intellectuelle limitées. Il est en braille pour les non-voyants et puis il est en pictogramme pour les personnes qui n'ont pas accès à la lecture et à l'écriture. Donc ce sont des petits dessins qui représentent une action et quand on voit le dessin, on comprend tout de suite de quoi on parle. Et pour moi, ça c'est un outil qui est indispensable pour les travailleurs sociaux, pour les avocats, pour toutes les personnes qui gravitent autour des victimes parce qu'il permet de poser des mots. On sait qu'aujourd'hui, une plainte qui va être étayée, qui va être chronologiquement, cohérente dans des récits de vie, dans des récits de faits qui sont corroborés par des preuves. Plus on va mettre ça en avant et plus on aura des chances que pénalement, l'auteur soit qu'il y ait une action juridique. Ce qui va se passer, c'est un l'accès au commissariat, au gendarmerie, qui n'est pas simple pour les femmes en situation de handicap. Et le prochain projet pour MSF 95, Jacqueline, c'est que les plaintes puissent être prises au sein de la structure.
Ah oui,
pour les femmes en situation de handicap, c'est-à-dire qu'on est la police et la gendarmerie qui se déplace.
Comme la maison à Saint-Denis là avec
exactement.
Gada Athènes.
Oui. Voilà, et ça c'est vraiment hyper important qu'on puisse faire de l'aller vers. Et j'aimerais bien que dans cet espace, dans cette maison des femmes qui est un lieu refuge sécure, qu'on puisse prendre les plaintes au sein de notre structure. Ça c'est la première chose. Et puis donner des outils aussi au corps de sécurité, au corps magistral, au corps socio-éducatif, pour pouvoir vraiment poser des mots. Parce que poser des mots, c'est le début de la sortie de l'emprise. C'est le début de la compréhension de la situation et de la gravité de la situation. Voilà, donc il y a des codes couleurs, exactement comme le violentomètre que tu as entre les mains. Donc ça va du vert, qui est une situation agréable, jusqu'au rouge, qui est une situation grave, où là, il faut solliciter de l'aide, jusqu'à l'arme. Et c'est vrai que ce qu'on a mis quasiment un an à le construire, ce violentomètre, c'est un comité de pilotage avec des femmes en situation de handicap victimes de violences pluriformes. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'elles vivent des violences que les femmes en situation ordinaire ne vivent pas.
Oui.
Qui sont en lien avec l'handicap. La privation de traitement, l'usurpation de signature et d'identité, la prise en charge administrative, l'empêchement d'aller faire ses soins. Quand elle a, par exemple, moi j'ai une femme qui, par exemple, a une sclérose en plaques, elle marche avec des béquilles, il lui a retiré ses béquilles pour pas qu'elle marche. Donc elle ne pouvait pas se lever pour aller d'une pièce à une autre. Donc la privation des outils qui permettent l'autonomie. Et voyez, ça, ce sont vraiment des choses qui sont propres aux femmes en situation de handicap. Donc ce violentomètre, il devait voir le jour. Et je suis ravie parce que cet après-midi, je reçois Madame Christelle Bonnet, qui est la préfète à l'égalité des chances, et Madame Johanna Berthaud, qui est la directrice de la direction de l'emploi, du travail et des solidarités, pour que justement on puisse évoquer ça. Il y a des tables rondes pendant tout le mois de janvier chez MSF 95, avec notamment l'Agence régionale de santé et le Conseil régional d'Île-de-France, pour pouvoir dire, voilà, on en est là, le constat, il est là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant et comment on avance ensemble?
Alors, ce violentomètre, nous l'avons utilisé. J'ai évoqué en début d'émission les spots que nous avons, qui passent à partir d'aujourd'hui, là.
Oui.
Donc, que nous avons réalisé dans le cadre du partenariat avec la mission locale de Plaine-Vallée. Et nous avons travaillé à partir de ce violentomètre pour réaliser ces spots.
Oui.
Donc,
voilà. Alors, le violentomètre doit être toujours accompagné. Ça, c'est très important parce que quand on le remet entre les mains d'une victime, s'il n'y a pas une béquille derrière pour poser des mots, ça peut être extrêmement violent de se rendre compte dans quelle catégorie on est. Parce que souvent, il y a une forme de déni mais un déni qui est une forme de protection. En fait, le cerveau va venir effacer certaines données pour qu'on puisse se protéger, oui, parce que le quotidien est tellement dur pour continuer à fonctionner. Et lui mettre un violentomètre entre les mains, moi je le laisse dans l'association, je le laisse jamais à disposition. Il est un outil de travail qui est entre les mains de la travailleuse sociale et ensuite il est abordé avec la victime pour pouvoir la protéger le plus possible. Mais c'est un bel outil de travail.
Céline et Benoît, vous connaissiez cet outil, le violentomètre?
Oui, absolument, si je peux me permettre. En effet, puis il existe aussi la grille évaluation grand danger au sein des commissariats de police et des gendarmeries, et plus précisément au sein des brigades de protection de la famille. On sait que, en principe, désormais, tous les commissariats et gendarmeries doivent être dotés d'une telle brigade. Et effectivement, lorsqu'une femme va déposer plainte pour des faits de violence conjugale, peu importe le type de violence conjugale, il y a cette évaluation qui doit être faite. Oui. Et c'est des questions, effectivement, qui doivent orienter ensuite l'enquête. Mmh. Et on a des questions autour de la violence physique, autour de la violence psychologique, économique, administrative. Alors, on sait que, voilà, légalement, les violences physiques et les violences psychologiques sont reconnues au sein du code pénal. Oui. Les violences économiques, on tend effectivement à ce que ça soit le cas, puisque c'est des questions systématiquement tant au sein de ces questionnaires qu'au moment où la femme va déposer plainte, on a des questions. Est-ce que vous êtes privé de vos salaires? Est-ce que vous avez accès au compte bancaire? Ça, c'est de la violence économique. Il y a aussi la violence administrative qui n'est pas encore reconnue sur le plan légal et pourtant qui existe.
Qui existe aussi.
Qui existe et qui est caractérisée de violence conjugale. C'est le fait, par exemple, de ne pas avoir accès au livret de famille, au passeport, aux pièces d'identité, que ça soit de la femme ou des enfants.
Mmh. Merci Céline, merci pour cette précision. Benoît, vous connaissez le violentomètre?
Alors oui, évidemment, je le connais depuis une dizaine d'années quand il est sorti, mais j'ignorais la version adaptée aux personnes en situation de handicap, et donc je tenais à féliciter Mariam pour cette initiative.
Merci. Merci Benoît. Mariam, un nouveau dispositif aussi chez MSF, c'est l'Académie des femmes.
Oui.
Tu nous rappelles son objectif?
Alors, il a une visée émancipatrice. Comme je disais tout à l'heure, il y a une phase à la déconstruction où là, clairement, la priorité, c'est de la mettre en sécurité, qu'elle puisse retrouver son estime d'elle-même, qu'elle puisse reprendre des repères, qu'elle puisse retrouver sa capacité d'agir, le fameux « empowerment ». C'est-à-dire être responsable de ses faits, de ses actes, et de pouvoir se mobiliser pour elle et ses enfants. Quand ça c'est acquis et qu'on sent qu'elle est prête, mais elle vous le dira par elle-même, il y a une phase à l'emploi et à l'autonomisation, et effectivement l'Académie des femmes, c'est 9 experts spécialisés sur la question des violences faites aux femmes et spécialisés sur l'emploi pour permettre justement de réanimer le désir qui est éteint, de pouvoir donner sens à ce qu'est une insertion socio-professionnelle, de pouvoir donner sens à ce qu'est un emploi, et de pouvoir trouver sa voie à travers les valeurs qu'on porte et à travers les acquis que nous avons, les compétences que nous avons. Parce que souvent, elles arrivent, elles disent « je sais rien faire ». Mais en fait, non, vous savez faire plein de choses, sauf que c'est complètement mis de côté. Donc voilà, c'est vraiment de pouvoir mettre en lumière les compétences et puis de pouvoir réveiller le désir. Voilà, le désir d'être une citoyenne, une femme libre, une femme autonome, une femme qui gagne son argent et qui est en capacité de le dépenser, honnêtement. Voilà, c'est ça qu'on voudrait réanimer, l'Académie des femmes. Il passe par plein d'ateliers, c'est 12 journées intensives d'ateliers, étalées sur 5 semaines. Il est en partenariat avec France Travail et avec la DET, ce qui nous finance ce dispositif-là. Et l'objectif, c'est de nous envoyer des femmes, justement, qui ont vécu des violences et qui sont à une marge de l'emploi et qui n'arrivent pas à passer cette marge parce que trop peu d'estime d'elles-mêmes, trop peu de valeur d'elles-mêmes et surtout pas de repères et pas de raison d'avancer. Voilà, elles sont sous l'injonction des dispositifs de l'insertion de l'emploi. Voilà, elles sont là, mais finalement, où est leur place? Eh bien, on trouve la place ensemble, c'est ça. Et moi, j'adore ce dispositif, on a mis près de 2 ans à le mettre en place, mais je pense qu'il a un grand avenir devant lui, parce qu'on a fait déjà une première session, et les femmes sont sorties de là en disant, mais en fait, tout est possible. Mmh. Et elle m'a dit ça avec des étoiles dans les yeux, et je me suis dit, ok, ça y est, on a compris.
On est dans la bonne direction,
exactement.
Mariam, un mot donc sur cette insertion professionnelle dont tu parles avec beaucoup d'enthousiasme, parce que tu vas dans une direction aussi particulière, puisque je te laisse nous expliquer que ces femmes sont dans le bâtiment, en
exactement.
Fait.
Exactement. Alors donc, on a un deuxième dispositif, c'est le chantier d'insertion, c'est une école chantier où on leur apprend à être des femmes peintres et des femmes restauratrices de patrimoine classé. Alors c'est très symbolique en termes d'image, parce que ça permet avec ses mains d'embellir un espace et de reconstruire un espace. Et là, je pense que le parallèle, on l'a tous compris, avec le chantier de nos vies, de leur vie, qui est souvent très compliqué. Et au fur et à mesure qu'on les voit embellir ces espaces, elles gagnent en compétences, elles gagnent en estime d'elles-mêmes, elles gagnent en assurance, elles sont en capacité d'exprimer une demande, elles libèrent leurs paroles, elles arrivent à être en situation réelle de travail. C'est vrai que ce chantier, par le manuel, parce que tout passe par le manuel, il est formidable parce qu'il permet vraiment cette émancipation et cette de retrouver son pouvoir d'agir. Et oui, effectivement, on est le premier chantier en Île-de-France à restaurer du patrimoine classé 100% femmes. Et nous avons de beaux projets, j'espère, qui arrivent avec la région, parce que notre Val d'Oise est riche de monuments, de demeures exceptionnelles. Je pense au Vexin, au cœur du Vexin, oui. Il y a des choses absolument incroyables. On a déjà restauré deux chantiers. On a eu la chance de travailler avec la communauté d'agglomération de Roissy Pays de France et la ville d'Orville et le musée d'Arkéa, où on a rénové les douves du château d'Orville, du seigneur d'Orville du Moyen Âge, du 12e siècle. Donc là, elles ont été maçonnes et tailleuses de pierre, et c'est juste incroyable. Voilà.
C'est en lien avec l'association Rempart aussi.
Exactement.
Hein, c'est ça.
Ouais. L'expertise est chez eux, parce que ça fait 60 ans qu'ils restaurent le patrimoine français. Ils font même des séjours l'été en famille avec les enfants. Ça peut être ludique pour des vacances.
C'est un petit peu de la fondation du patrimoine.
Exactement.
Hein, pour situer.
Exactement. En fait, leur encadrant technique, c'est eux qu'on l'a l'expertise, et puis elle est transmise, le savoir-faire est transmis à ces femmes-là. Et ce qui est intéressant, c'est que les passerelles sont possibles. C'est-à-dire que ce chantier n'est qu'un outil pédagogique pour les mettre en situation réelle de travail. Après, à elles de faire leur choix sur leur métier en devenir. Et curieusement, une femme sur trois s'oriente vers des métiers qui sont dits masculins,
oui.
Donc dits techniques et donc dits en tension. On retrouve des femmes peintres, électriciens, plombières. Et ça, c'est vraiment très chouette, parce que ça veut dire qu'on vient déconstruire les stéréotypes du genre. On vient faire tomber les clichés du genre.
Oui, ça apporte une confiance peut-être en soi supplémentaire.
Et puis de se dire qu'en 2025, il y a encore des métiers pour hommes et des métiers pour femmes, quand on est une femme, c'est juste un peu désolant, je trouve.
C'est vrai. Mariam, encore une question. Merci pour tout cet enthousiasme qui, moi, j'adore. Donc, MSF, c'est une association. De quoi MSF a le plus besoin aujourd'hui pour poursuivre et amplifier son action ?
De belles énergies. Je répondrai pas d'argent, parce que cette association, elle est d'abord portée par des valeurs et par une cause qui est une cause de noble et une cause de société. Nous avons tous autour de nous une femme victime de violence conjugale. C'est 1 sur 10. Statistiquement. Et nous avons tous une personne en situation de handicap dans notre entourage. C'est 15 millions de Français qui sont en situation de handicap reconnue. Je ne parle pas de ceux qui sont en cours de reconnaissance. Et la moitié d'entre eux sont des femmes. Donc, textuellement, nous avons quelqu'un à côté de nous qui peut être concerné par le sujet. Donc, j'ai envie de dire, adhérez à l'association, apportez votre compétence, donnez un peu de votre temps. On a besoin de toutes les forces vives pour pouvoir faire avancer cette cause. Et puis, pour les politiques, bien sûr, et les institutions, soyez à nos côtés, parce que sans vous, cette association n'aura pas de sens et n'existerait pas.
C'est clair. Et donc, si des femmes souhaitent rejoindre MSF, que doivent-elles faire si elles nous écoutent là en ce moment ?
Eh bien, passer par le standard de l'association. Elles peuvent nous retrouver très facilement sur Internet. Je peux donner le numéro de téléphone ?
Bien sûr.
Le 01 85 77 01 00. Et puis un numéro qui est essentiel, que je n'ai pas nommé depuis le début, qui est le 3919.
Bien sûr.
MSF 95 est adhérente de la Fédération Nationale Solidarité Femmes. Nous sommes la 83e association d'aide aux victimes expertes sur le sujet sur le plan national. Et nous sommes la seule sur le Val d'Oise à être adhérente. Et bien, le 3919 est un lieu d'écoute 7 sur 7, 24 sur 24, y compris pour les femmes malentendantes, et dans 283 langues traduites. Donc, toutes les femmes peuvent appeler le 3919 dès qu'elles ont une question, si elles ont envie de parler et d'être écoutées. Et automatiquement, elles seront orientées vers MSF 95.
Merci, Mariam. J'ai aussi toute une liste de numéros à dire avant la fin de l'émission.
Ouais.
En tout cas, je pense que Céline et Benoît, ça valait le coup de rencontrer Mariam. Hein, ce que vous en pensez.
Merci.
Merci infiniment, Mariam, pour ton formidable investissement, puis ce travail pour venir en aide à toutes ces femmes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales, avec cette attention particulière sur le prisme du handicap. Merci infiniment.
Merci à toi de nous soutenir depuis le début de l'aventure. Vraiment.
On marque une deuxième pause, on reste dans le thème des violences intrafamiliales, et c'est en compagnie de Claudio Capéo et T'en aller. Restez à notre écoute, on se retrouve tout de suite après.
Il te dit qu'il t'aime, que tu es belle. Il te caresse avec des épines de rose. Il te promet la lune, il te promet le miel. Il te dit que c'est ta faute quand il explose. Il te fait du tort, il te fait du mal. Mais l'amour à mort n'a rien de normal. Il sait qu'il a tort, il sait que t'as mal. Mais l'amour à mort balance au vent toutes ses lettres, des regrets à chaque fois. Tout est calme avant la tempête. Mais tu dois t'en aller et quitter ses bras de l'enfer. Il faut quitter le bateau ivre, tu dois en parler et hisser des mots pour qu'on t'aide avant que le pire ne t'arrive. Mais tu dois t'en aller. Passe l'amour, ouais, passe le charme. Comment faire quand tu es devenu sa chose? Que dire quand l'oreiller est devenu une arme? Quand ta liberté est une porte close? Quand les mots sont forts et les mots sont durs? Quand l'amour à mort devient un coup sûr? Et tout l'or du monde n'est pas une armure? Quand l'amour a tort balance au vent toutes ses lettres, des regrets à chaque fois. Tu penses aux promesses qu'il t'a faites. Mais tu dois t'en aller et quitter ses bras de l'enfer. Il faut quitter le bateau ivre, tu dois en parler et hisser des mots pour qu'on t'aide avant que le pire ne t'arrive. Mais tu dois t'en aller. Mais tu dois t'en aller. Se lève et l'horizon est bien dégagé. Il restera des traces, mais tu seras enfin libéré. Mais tu dois t'en aller et quitter ses bras de l'enfer. Il faut quitter le bateau ivre, tu dois en parler et hisser des mots pour qu'on t'aide avant que le pire ne t'arrive. Mais tu dois t'en aller.
IDFM 98 FM.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio. Merci d'être à notre écoute jusqu'à 11h. Ce matin, nous parlons de violence intrafamiliale en compagnie de Mariam Baraka, fondatrice et directrice de MSF 95, Maison Solidarité Femmes 95, Benoît Lemogne, fondateur et dirigeant de Divorce Consulting, et Céline Marcovici, avocate au barreau de Paris, présidente de l'association Femmes et Violence, auteur du livre « Madame, il fallait partir » aux éditions Lattès, paru en 2020, et co-auteur du guide juridique des femmes victimes de violences, paru aux éditions Alma en 2016. Benoît, vous, votre approche, elle est singulière, hein, puisque votre accompagnement s'adresse notamment aux conjoints de pervers narcissiques. Pourquoi avoir choisi cet angle spécifique? Déjà, peut-être dire ce qu'est Divorce Consulting, et puis pourquoi cet angle?
Oui, Jacqueline, effectivement, Divorce Consulting existe depuis 14 ans. Puisque j'ai ouvert les portes le 2 janvier 2012.
Ah bon, donc c'est presque un anniversaire.
Exactement. Au début, en fait, je sortais de 15 ans d'activité dans le notariat, orienté donc sur les séparations compliquées. Donc j'étais spécialiste des procédures contentieuses, comme on dit, avec enjeu patrimonial. Le constat que j'ai fait, c'est que les personnes qui étaient confrontées à ces procédures étaient confrontées à une double problématique. Premièrement, le fait que les juristes ne sont pas formés en psychologie, donc n'ont pas d'approche psycho-affective de leur problématique. Et deuxièmement, le concept de coaching juridique n'existait pas, c'est-à-dire qu'elles sont confrontées à des procédures relativement compliquées, très techniques, Contrairement, vous êtes convoqué donc par un notaire qui est nommé par un juge avec votre avocat. C'est un discours très technique entre oui. juristes. On parle de votre argent, de votre avenir financier, et vous ne comprenez strictement rien.
Compte tenu en plus de l'émotion, exactement. Probablement, voilà. de ces situations.
Donc c'est ce qui a donné naissance à Divorce Consulting. Au bout de 15 ans d'activité dans le notariat, 15 ans de collaboration avec la justice, j'ai estimé que j'avais... En tout cas, j'aspirais à faire les choses autrement et à apporter précisément aux personnes confrontées à ces procédures compliquées ce dont, selon moi, elles avaient besoin, à savoir du coaching juridique pour leur donner les premières clés de compréhension de ces procédures, et également en même temps psycho-affective, puisque l'ADN en fait de Divorce Consulting, c'est de préparer les séparations avec une double approche psycho-affective et juridique en même temps. Voilà. Et assez rapidement, en fait, 2015, en fait, ça a été un tournant au bout de 3 ans, parce que il m'est arrivé 2 choses qui ont déterminé tout l'avenir de Divorce Consulting. J'ai découvert l'intelligence émotionnelle. À l'époque, je savais même pas que ça existait. Et en même temps, j'ai beaucoup de femmes qui sont venues me consulter en me disant « Monsieur Lemoigne, j'ai un conjoint pervers narcissique. Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et là, donc, c'était providentiel. J'avais commencé ma formation en intelligence émotionnelle. Et en fait, cette formation qui a duré 2 ans, à l'issue de laquelle j'ai rédigé mon mémoire sur comment utiliser l'intelligence émotionnelle pour permettre aux victimes de pervers narcissiques de dominer leur conjoint. Parce qu'en fait, le pervers narcissique ne connaît que la domination. Donc, tant que c'est lui qui est dominant,
qui fixe
les règles du jeu, et c'est un enfer, même dans la procédure de séparation. Donc, la solution, c'est de devenir le dominant, et ça s'apprend. Mais c'est pas pour le mener par le bout du nez et lui faire faire des choses contre son propre intérêt. Ça reste très très prégnant pour moi. En fait, c'est l'inciter, le contraindre malgré lui à faire les choses correctement.
Voilà. Oui, parce que vous le disiez en entrant dans le studio avec Céline, un divorce avec un pervers narcissique est fondamentalement différent d'un divorce classique.
Oui, je vais peut-être laisser Céline rebondir sur ce sujet.
Oui, en effet, je dis toujours qu'il y a des avocats qui pratiquent le droit de la famille au quotidien, on va dire le droit de la famille classique, si je peux utiliser ce terme, donc en matière de divorce, garde d'enfants, et il y a les avocats qui exercent en matière de violence conjugale. J'ai envie de dire que c'est deux domaines finalement complètement différents. On n'a pas la même approche, on n'a pas le même accueil. De la personne, de la cliente. On n'a pas la même approche psychologique. C'est très important d'avoir une écoute attentive, mais aussi d'écoute active. Alors moi, c'est vrai que quand je reçois au cours d'un premier rendez-vous une femme victime de violence qui veut se séparer, qui veut engager aussi des poursuites en parallèle sur le plan pénal, je vais l'écouter. Je vais être dans la bienveillance, évidemment, même si je le suis, ça va de soi avec toutes mes clientes, mais c'est très important de construire ce lien de confiance parce que c'est un exercice extrêmement difficile de raconter les faits pour lesquels on est victime. Donc cette écoute attentive pour vraiment qu'il y ait ce lien qui s'installe, qui se crée, puisque c'est un véritable travail d'équipe. Et surtout en matière de violence conjugale, la confiance est juste fondamentale. Et puis il y a cette écoute active, l'aider, l'orienter. Quels éléments sont importants, faire le tri par rapport aux informations qu'elle va vouloir me confier. Et lui dire que rien n'est anodin, tout est important. Et surtout la féliciter. Parce que moi, c'est vrai que c'est le réflexe.
Bravo
d'être venu. Bravo pour le courage que vous avez eu de dénoncer tous ces faits. Alors ça peut être au cours d'un rendez-vous, 2 rendez-vous, parfois c'est vraiment progressif. Donc cette approche, à mon sens, est fondamentale.
Oui, on est bien d'accord. Merci Céline pour ces précisions. Mariam, tu le ressens comme ça aussi également ce...
mais concrètement, en fait, on travaille en partenariat avec les avocats. On a une équipe qui est conventionnée au sein d'MSF 95. Et puis, je vous rejoins complètement quand vous dites qu'il y a le droit des familles. Et puis, il y a le droit à défendre une femme qui est en situation de violence. L'approche n'est pas du tout la même. Même ne serait-ce que pour venir travailler les violences psychologiques qui sont très difficiles à prouver, surtout quand il n'y a pas de faits qui corroborent ou de preuves qui corroborent, c'est très compliqué. Effectivement, le lien de confiance est essentiel. Avant d'engager une procédure pénale ou avant d'engager une procédure de divorce, on déconstruit avec elle. On repositionne les faits, on étaye les faits. Et ça, c'est un travail en amont qui est essentiel et qui permet ensuite, quand on arrive chez un avocat ou une avocate, d'être prête, ne serait-ce que de manière émotionnelle et de manière affective. C'est hyper important. La séparation est encore un autre processus de deuil pour les femmes.
Absolument. On a besoin, comme je disais, c'est un véritable travail d'équipe, mais aussi avec les associations. Parce qu'on a tous un rôle différent.
Mmh. C'est ça.
Tous
chacun est utile.
Complémentaire, pour aider les femmes à mener à bien la procédure qu'elle a voulu diligenter.
Merci Céline et Mariam. Alors Benoît, on vient à parler de cette arme silencieuse des pervers narcissiques. C'est peut-être ce dont vous vouliez parler. Et il y a c'est le contrôle coercitif. Est-ce qu'on peut expliquer ce concept?
Oui, le contrôle.
C'est un petit peu ce que nous disait Mariam tout à l'heure, mais autrement juridiquement.
Le contrôle coercitif, en fait, il se met en place insidieusement. Ce qui va se passer, en fait, c'est que y a un malentendu, en fait, initialement, entre l'auteur et la victime. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'auteur, il est également victime d'un dysfonctionnement de son cerveau. Voilà. C'est pas par hasard s'il est devenu pervers narcissique. Ça s'explique par souvent une absence de lien sécure avec la maman dès la toute petite enfance. Et en fait, le pervers narcissique, dans une relation, c'est avant tout un prédateur. Il ne va pas annoncer à sa victime ce qu'il attend de lui, d'elle, bien évidemment. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il va s'illusionner lui-même sur la capacité à sa victime à lui apporter tout ce qu'il attend. Voilà. Donc au début, c'est une lune de miel.
Oui, c'est une phase de séduction.
Ah bah c'est ce qu'on appelle le love bombing. Donc là, vous êtes vraiment les petites filles aiment croire au prince charmant. Bah c'est ça. Vous le vivez en direct. Voilà. Le problème, c'est que vous allez déchanter assez rapidement. Tout comme l'auteur, le pervers narcissique va lui-même déchanter parce que en fait, il y a un cahier des charges à respecter par la victime. Ce cahier des charges n'est pas évidemment consenti initialement, il n'est pas exposé, il reste caché. Donc petit à petit, le pervers narcissique, il va s'imaginer que la victime le fait exprès de pas lui donner ce qu'il attend. Voilà. Et comme il s'est illusionné initialement, il a idéalisé sa victime, il va forcément être déçu, il va se persuader qu'elle le fait exprès et qu'elle mérite une punition. Voilà. Donc ça va être crescendo. Et vous êtes entré dans le cycle, voilà. Alors tant que vous n'êtes pas sous emprise véritablement, vous êtes dans la période de love bombing. Mais petit à petit, la victime, elle va investir la relation. Et de toute façon, le prédateur, il va se présenter comme quelqu'un de très séduisant. Mais la victime, souvent, elle a l'impression qu'elle mérite pas tout à fait.
Oui, ça, elle se culpabilise.
Surtout, elle va être impressionnée. Elle va se dire, ce gars-là, je pensais pas que j'aurais pu avoir un gars comme ça dans ma vie.
Ah oui.
Elle est hyper impressionnée. Donc, elle se sent pas tout à fait à la hauteur. Et donc, elle va tout faire par elle-même pour justement être à la hauteur.
Lui plaire.
Et donc, dès le tout début, même dans cette période de love bombing, il y a déjà l'emprise qui se met en place. Et ce que je voulais souligner, c'est la complémentarité, parce qu'en fait, moi, mes clientes, elles viennent me voir à un moment où elles sont dans une fragilité extrême. Donc, on va mettre en place tout le processus d'accompagnement. Et c'est seulement au bout de 3, 4 à 5 mois qu'on va mettre en place la collaboration avec les notaires et les avocats et travailler tous ensemble pour effectivement sécuriser au maximum cette victime.
Merci Benoît. Mariam, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, je voulais ajouter en complément de ce que dit Benoît, qui est tout à fait juste. Il a, le prédateur, l'auteur présumé, il a toutes les clés de la séduction et de la sécurisation. Mais ce que je voulais ajouter, c'est qu'à la base, ce sont des vases communicants. Et qu'elle aussi, elle est carencée. elle aussi, elle est affectivement demandeuse. Elle aussi, elle va chercher chez l'autre ce qui lui manque, son vide. Oui.
Et en fait, à la base, affectif des deux côtés.
Exactement. En fait, lui est carencé parce qu'effectivement, il a une histoire de vie, mais elle en a une. Et souvent, les femmes, quand elles arrivent dans quasiment 8 cas sur 10, et là, c'est vraiment les stats qui parlent, on a ce qu'on appelle un continuum des violences. Alors, pour parler un peu plus, vulgairement, le millefeuille des violences. Mmh. Voilà. Où on vient étaler les violences les unes après les autres, et elles deviennent des proies repérables, identifiables, et ce sont vraiment des vases communicants au début. C'est-à-dire qu'il va lui apporter toutes les clés dont elle a besoin. Il vient la sécuriser là où il y a des manquements, jusqu'à la prochaine phase.
C'est un prédateur.
Ils se nourrissent l'un de l'autre. C'est ça qui est important de souligner, parce que souvent on dit mais je comprends pas pourquoi, quand on n'est pas du domaine, souvent on dit on pose deux questions. Mais pourquoi elle s'est mise avec un gars comme ça et pourquoi elle le quitte pas? Alors déjà, on peut pas le quitter quand on est sous emprise. Faut comprendre comment on s'en sort. Il faut un tierce pour sortir de là. Et pourquoi elle est tombée sur un gars comme ça? Pourquoi elle l'a choisi? Mais en fait, parce que au début, il la remplissait de tout ce dont elle avait besoin, de manière existentielle.
Merci, Mariam. Oui, donc on comprend que, en tout cas, c'est, je crois que juridiquement, c'est reconnu. L'emprise, c'est un mécanisme. Grâce à vos méthodes,
Alors, il peut y avoir effectivement une méthode assez structurée. Donc, la première partie de l'accompagnement, en fait, moi, je fonctionne par module d'accompagnement de 10 heures. Et alors déjà, la première consultation, je vais demander à mon client, ma cliente dans 80% des cas, parce que j'ai 20% d'hommes victimes de pervers narcissiques, de me faire le récit de sa vie. De la vie de son conjoint et de la vie de couple. Et on retrouve systématiquement le même scénario. Et ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que la dépendance affective, qui est le trait d'union invisible entre les deux, elle est causée par la même chose, qui est un sentiment de rejet et d'abandon au niveau de la toute petite enfance, autant chez la femme que chez l'homme. Après, on peut se demander pourquoi, dans 80% des cas, l'homme va évoluer vers un profil de pervers narcissique, alors que dans 80% des cas, c'est la femme qui évolue, elle, vers un profil de victime de pervers narcissique.
Oui.
Alors, j'ai pas trouvé d'explication. Après, moi, j'ai ma petite idée sur la question, et je pense que c'est tout simplement... je pense que c'est, d'un point de vue physiologique, et d'un point de vue de l'instinct de survie, je pense que l'homme, le petit garçon, l'amour qu'il ne ressent pas, il va se le donner à lui-même.
Oui. Ah oui.
Alors que la petite femme, la petite fille, future femme, elle va souvent, pour des raisons donc aussi d'instinct de survie qui est différent, se résigner. Et elle va évoluer vers un profil de victime de pervers narcissique. Et je voulais insister aussi sur, puisque là on est sur les violences intrafamiliales, la place des enfants dans ce processus. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur 3 enfants, statistiquement, il y en a un qui va évoluer vers un profil de pervers narcissique. Le deuxième sur un profil de victime de pervers narcissique. Et le troisième qui est plus résilient, mais il va quand même également énormément souffrir. Mais plus résilient, il va éviter les deux sujets.
Benoît, je crois que Mariam veut aussi ajouter quelque chose. Merci Benoît.
On se cherche des explications. Il y en a peut-être une qu'on met de côté, c'est qu'on est dans une société patriarcale, où l'homme est le dominant.
Évidemment.
Donc de manière complètement logique, la petite fille et le petit garçon évoluent chacun dans son couloir, sans déborder, et l'homme est un dominant. Parce que nous sommes dans une société qui le permet, qui l'autorise. D'où tout le travail de déconstruction des violences, en fait, de déconstruction, pardon, des stéréotypes du genre dès la plus jeune enfance. La place de la petite fille, la place du petit garçon. C'est une des raisons qui fait que plus tard, l'homme devient un prédateur et que la femme devient une victime. C'est celle qui pleure et l'autre, c'est celui courageux qui construit des Legos pour ne pas faire de marque.
Ouais. Merci Mariam. Benoît, je voudrais qu'on parle des signes avant-coureurs. On fait une pause avant et je vous laisse profiter de quelques instants de musique avec Grand Corps Malade et Mesdames. On se fait du bien un petit peu, à tout de suite.
Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre gente que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation. Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la gente masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller. Celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. Nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Et toujours l'économie en direct. Ce matin, nous avons une émission consacrée aux violences intrafamiliales. Et à mon micro, Mariam Baraka, Céline Marcovici et Benoît Lemogne. Benoît, quels sont les signes avant-coureurs qu'on pourrait évoquer pour si des auditrices ou des auditeurs nous entendent ce matin pour qu'il se pose la question, est-ce que je ne vis pas avec un pervers narcissique ?
Exactement, je vais vous révéler en fait les signes par lesquels on peut détecter qu'on est en situation d'emprise psychologique. Donc en fait, vous marchez sur des œufs, c'est-à-dire que vous n'êtes pas vraiment sûr de ce que vous pensez, de ce que vous faites. Concrètement, dans une première version de l'emprise, vous faites tout pour que monsieur soit content. Et dans une version plus avancée de l'emprise, vous allez tout faire pour que monsieur ne s'énerve pas. Voilà, donc ça, c'est une alerte assez importante. Vous vous excusez en permanence. Votre estime de vous s'est effondrée. Donc vous doutez de vos perceptions, de vos pensées. Alors ça, c'est encouragé, entre guillemets, par le gaslighting, ce qu'on appelle le gaslighting. L'auteur est capable de nier la réalité. Vous avez vécu quelque chose la veille qui est un petit peu perturbant. Vous en reparlez le lendemain. Il va vous expliquer que ça n'a pas eu lieu ou que vous avez une perception complètement fausse de ce qui s'est passé. Et ça, c'est extrêmement violent pour attaquer l'estime de soi. Ce qui est terrible, c'est qu'il va se mettre en colère, mais il va vous persuader que c'est de votre faute.
Ouais, toujours le côté culpabilisant.
Voilà. Ouais. Et l'inversion de culpabilité. Vous avez peur de ses réactions. Vous cachez certaines choses aux autres. En fait, le pire, c'est que vous devenez son avocat. Moi, j'ai une cliente sur deux qui me dit « Mais je ne peux pas me plaindre auprès de mes amis, de mes copines. Elles sont persuadées que j'ai le mari idéal. » Voilà. Donc, vous êtes dressé pour, en fait, être sa chose, le servir. C'est « Sois belle et tais-toi ». On en est revenu là.
La femme trophée.
La femme trophée qui est là pour servir la notoriété, la carrière de son mari, l'aura de son mari. D'un point de vue sociologique, on est dans certains milieux particuliers. C'est très prégnant dans les milieux assez argentés, comme on dit. Dans la politique, les milieux de la politique, on va servir aussi, et c'est la femme... Alors c'est le concept de la prison dorée. Mmh. On est là pour donc assurer la vie mondaine de son mari, les mondanités. Donc la femme est dressée, elle est superbe, elle va souvent chez le coiffeur, chez le pédicure, etc. Mmh. Voilà. Mais elle doit être sublime pour que à travers elle, c'est lui qu'on admire.
C'est sois belle et tais-toi.
Exactement. Exactement. Voilà, donc si vous vivez tout ça, alerte.
Merci beaucoup Benoît, et puis merci pour tout ce travail hein, de psychologique que vous faites auprès de vos patientes et patients, puisqu'on a compris que vous aviez 20% de
d'hommes. Oui, alors ce sont des clients, hein,
des clients, oui, c'est vrai, pardon, c'est vrai, c'est le, vous voyez, je oui. suis prise par votre côté comme ça affectif. Quel message vous souhaiteriez adresser aux personnes qui se reconnaissent dans ce que nous décrivons aujourd'hui ?
Ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'il y a des solutions. J'ai envie de leur dire que elles ne sont pas prêtes à pousser la porte d'une étude de notaire ou d'un cabinet d'avocat, et c'est normal. J'ai envie de leur dire qu'il y a un travail préparatoire pour sécuriser tout ce parcours, parce qu'un parcours de séparation, c'est des règles juridiques. Mmh. Et même si on va commencer dans un deuxième temps à aborder l'aspect juridique de la séparation, contrairement à ce que le système veut souvent nous faire croire, une procédure de divorce, c'est avant tout une problématique psycho-affective. Mm-hmm. Donc le début de l'accompagnement, c'est deux programmes en parallèle, le programme intelligence émotionnelle et pervers narcissique. Intelligence émotionnelle, c'est pour recouvrer sa propre personnalité avec les émotions, se sevrer de l'emprise et accoucher d'une super version de soi-même en termes de personnalité. Mmh, moi, j'ai vraiment des exemples très ouais. impressionnants à ce niveau-là. Et en parallèle, le programme pervers narcissique, on va vous expliquer comment fonctionne un pervers narcissique, comment on devient pervers narcissique, comment on devient la victime d'un pervers narcissique, comment insidieusement, dans ma vie, c'était malheureusement écrit. Et petit à petit, on va vous expliquer.
Ça, le but, c'est de prendre le pas sur cette personne et d'arriver à son tour à la deviner.
Exactement.
Finalement.
Donc c'est un travail de désemprise. Mmh. Hein, on va sortir de l'emprise. Et avec ce programme pervers narcissique, on va comprendre. Moi, mes clientes me disent, mais en fait, ce qui est génial, c'est que tout ce que j'ai vécu, maintenant, je mets des mots dessus. Mmh. Ce qui est terrible, c'est qu'on est tellement dans le brouillard d'un point de vue cognitif et mental que on doute de
oui,
ce
qu'on est. Dans on est le, voilà, la certitude. On,
voilà. Et là,
permanente.
Souvent, me disent, mais en fait, rien que de lire, de comprendre, de réaliser que ce qui m'est arrivé, c'est un schéma, qu'en fait, j'étais pas folle. Voilà, ça, je l'entends tout le temps, mais
c'est
j'étais
important.
Pas folle, Benoît. Voilà, c'était tellement, ça me semblait tellement délirant ce que j'imaginais. Que je me dis, mais tu tournes pas rond. Mais en fait,
c'est le contraire.
C'est la suite de l'évolution de la relation qui a validé ce que je vivais. Et ce qui est important, donc, c'est dire aux téléspectatrices et aux téléspectateurs, parce que dans 20% des cas, mes clients sont des hommes, il y a un déclic. Mmh. Voilà. À partir du moment où vous avez un déclic, appelez-moi. Appelez-moi et il y a 3-4 mois d'accompagnement avant de vraiment envisager la séparation pour la préparer efficacement.
Merci infiniment Benoît. Alors pour vous contacter, c'est consulting
c'est divorce-consulting.fr.
Très bien. Merci infiniment et merci de redonner espoir hein, à toutes ces personnes que vous accompagnez.
Avec plaisir.
Merci Benoît. Voilà, une nouvelle pause, ne partez pas. On va écouter aujourd'hui un titre qu'on n'a pas écouté depuis longtemps, c'est Imagine de John Lennon.
All the people living. IDFM Radio, 98 FM.
Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio. C'est l'économie en direct et aujourd'hui nous poursuivons cette émission consacrée aux violences intrafamiliales en compagnie de Mariam Baraka, fondatrice et directrice de MSF 95, Maison Solidarité Femmes 95, Benoît Lemogne, fondateur et dirigeant de Divorce Consulting, Céline Marcovici, avocate au barreau de Paris, présidente de l'association Femmes et Violences, auteur du livre « Madame, il fallait partir » aux éditions Lattès et co-auteur du guide juridique des femmes victimes de violences aux éditions Alma. Céline, merci infiniment d'avoir pu venir aussi ce matin dans cette émission.
Merci à vous, Jacqueline.
J'avais donc le plaisir de vous accueillir il y a un an déjà.
Absolument.
Enfin, ça fait tout juste un an. Et votre expertise hein, dans votre domaine justement des violences intrafamiliales m'avait séduit et voilà, je pense que vous avez complètement votre place ce matin avec nous. Alors. Peut-être déjà depuis un an, que s'est-il passé dans votre association ?
Alors, au sein de notre association, donc Avocats Femmes et Violences, qui existe depuis 1997, donc on va bientôt pouvoir fêter les 30 ans oui. de l'existence de cette association. Cette association est composée d'une poignée d'avocats du barreau de Paris. Alors, je dis avocats parce qu'il n'y a pas que des avocates.
Oui,
on a effectivement quelques confrères qui se sont mobilisés au sein de cette association. Et notre rôle au quotidien, c'est véritablement d'accompagner sur le plan humain, je dirais humain, surtout, mais aussi évidemment sur le plan juridique et judiciaire des femmes qui sont victimes de violences. Et à cet effet, nous avons une permanence téléphonique tous les lundis, mardis et jeudis de 15h à 19h. Je me permets de donner le numéro, c'est le 0820 20 34 28. Donc nous avons pour rôle de répondre à toutes les questions que les femmes victimes de violences peuvent se poser, que ça soit sur le plan civil, que ça soit sur le plan pénal, que ça soit au niveau des enfants, puisque on le sait malheureusement, en fait je dis toujours il y a un trio de procédures quand on est face à une situation de violence conjugale ou intrafamiliale. On a le volet civil devant le juge aux affaires familiales pour organiser la séparation ou aussi surtout pour solliciter une ordonnance de protection, je pourrais y revenir. Le volet pénal avec l'objectif effectivement d'aboutir à une audience correctionnelle lorsque la femme décide de dénoncer les faits dont elle est victime. Et également un volet devant le juge des enfants. Juge des enfants, lui, il intervient quand un enfant, au sein d'une famille, est en danger. Et effectivement, quand un enfant est, alors on parle de victime directe ou indirecte, donc quand il est exposé, le simple fait d'être exposé à des faits de violence conjugale, c'est un enfant dit victime. Et là, il est en danger. Il est en danger d'un point de vue psychique, il est en danger d'un point de vue moral, d'un point de vue physique, parfois. Et là, le juge des enfants intervient pour se dire, est-ce que je peux laisser l'enfant dans cet environnement qui est néfaste pour lui ? C'est indéniable. Ou est-ce que la maman, donc qui est victime de violence conjugale, va pouvoir justement organiser cette séparation, avoir ce déclic, ne plus être sous l'emprise. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé au cours de cette émission de cette notion, mais c'est fondamental. En fait, les juges des enfants vont vérifier est-ce que la maman, alors elle s'est séparée, mais est-ce qu'elle va pas retourner avec le conjoint violent. Et en fait, il y a ce travail vraiment sur le long terme qui se met en place, parce qu'une fois qu'on est engagé dans une procédure devant le juge des enfants, effectivement, ça dure. Pourquoi ça dure ? Parce qu'on suit cette famille, mais aussi on va vérifier, enfin le juge des enfants va vérifier qu'il n'y a pas eu un retour en arrière. Ça aussi, c'est fondamental. Donc, on a, je reviens effectivement à notre rôle, mais notre rôle, c'est d'accompagner sur tous ces volets-là au sein de l'association. On peut également accueillir ces personnes au sein de nos cabinets respectifs pour, voilà, si elles le souhaitent, pour les aider encore plus sur le plan juridique, entamer les démarches nécessaires. Et par ailleurs aussi, ça c'est plus qu'essentiel, notre rôle, c'est de former.
Oui.
former évidemment les professionnels du droit, les confrères. Nous donnons beaucoup de conférences tous les ans sur des thèmes qui sont donc évidemment autour des violences faites aux femmes. Soit on va aborder le thème des violences physiques, des violences sexuelles, du viol, de l'ordonnance de protection, parce qu'elle a tout de même bien évolué récemment. Donc c'est vraiment... L'idée, c'est de mettre à jour les connaissances des confrères, de sensibiliser évidemment avant tout, mais également on peut intervenir au niveau des professionnels de santé. Parce que parfois, ça peut être le premier interlocuteur.
Oui,
un médecin généraliste, une sage-femme. Voilà, il y a beaucoup de professionnels de santé qui sont confrontés un jour, au cours de leur carrière, à une situation de violence conjugale. C'est indéniable. Donc vraiment, de sensibiliser un maximum de personnes. Et j'ai envie de dire, je le dis très souvent en fait, c'est pas que les professionnels du droit, c'est pas que les professionnels des santé, c'est toute la société.
Oui.
C'est un phénomène de société. Il faut que la population soit informée. Des premiers réflexes à avoir, donc c'est... En fait, si je résume notre vision des choses, notre optique, c'est notre rôle, c'est formation et information.
D'accord.
C'est divulguer l'information, mais aussi former au mieux. Et on peut intervenir, on parlait des jeunes enfants, mais intervenir au sein des écoles. Ça aussi, c'est essentiel. Et même dans les petites classes. Alors, je sais que c'est en cours parce qu'on a un projet de... Donc, il y a un projet de loi qui est sorti en novembre 2025. Il y a un travail à faire chez les tout-petits. Sensibiliser dès le plus jeune âge. Et il était même question, j'avais pu lire à travers les travaux qui ont pu être publiés, c'est de faire un bilan chaque année au sein des écoles maternelles avec l'élève pour voir si il n'est pas face à une situation de violence conjugale ou qu'il est directement victime dans le cas d'une violence de situation intrafamiliale.
Oui, parce que il y a forcément des paramètres qui vont apparaître.
Hein, absolument. C'est,
ouais.
Un petit garçon, je parle, c'est vrai, voilà, petit garçon, petite fille, mais un petit garçon qui est très souvent violent envers les autres, les petites filles ou les autres petits garçons qui se plaignent de son comportement, ça va alerter. Pourquoi ce comportement est récurrent? On lui parle, on lui explique ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, mais pour autant, il va recommencer.
Oui, bien sûr.
Donc il y a des signaux effectivement qui doivent alerter.
Il y a vraiment toute une éducation à mettre en route. Oui. Merci Céline. Mariam, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, alors deux précisions. Moi, la première, c'est que je trouve que les services de la protection de l'enfance ne sont pas appréciés à leur juste valeur.
Oui.
Et c'est vrai que nous on travaille avec eux au quotidien, donc on sait le travail formidable qu'ils font et ils sont nécessaires d'exister. Par contre, les mères sont terrifiées à l'idée d'avoir affaire à la protection de l'enfance parce qu'ils voient ça comme un danger.
Oui.
Pour eux, c'est comme un risque de placement et c'est comme un danger. Et c'est vrai que cette question-là avec le juge pour enfants, dès qu'elle est abordée, les mères sont terrifiées et parfois même ça peut marquer une rupture d'accompagnement. C'est-à-dire qu'elles vont fuir, pour certaines, changer de département en pensant fuir.
Absolument.
Alors qu'en fait, les services sociaux les rattrapent via les services sociaux du département.
On
a des femmes qui fuient des régions, des départements parce qu'elles ont peur du placement de l'enfant, alors qu'en fait, les services de la protection de l'enfance sont là pour accompagner dans l'aide éducative, accompagner à la parentalité, accompagner à ce lien qui a été mis à mal. Cette diade mère-enfant qui a été mise à mal.
Ça peut être un parallèle et en fait obligatoire, essentiel.
Voilà, c'est vrai que moi c'était la première précision. C'est vrai que la formation et l'information est essentielle. Oui. Former les professionnels, tout corps d'État, magistrature, médicale, force de l'ordre, travailleurs sociaux à cette question des violences, à la construction, déconstruction des violences faites aux femmes. Et puis informer les femmes, parce qu'une femme informée est une femme qui sort du déni, est une femme éclairée et en capacité de retrouver sa capacité d'agir et de prendre des décisions pour elle et ses enfants. Et puis le dernier point, quand on parlait tout à l'heure des enfants, il y a une association qui est formidable, qui agit sur le plan national, qui a été créée par Nathalie Coigny, qui s'appelle les Maltraitances. Moi, j'en parle. Et ils interviennent, en fait, dans les écoles. Vous savez, c'est des petites boîtelettes anonymes. Et ils interviennent dans les écoles pour pouvoir justement poser des mots sur les violences et pouvoir déconstruire les violences avec les enfants. Et ce qui ressort statistiquement, c'est que dans une classe de 30 enfants, ils interviennent en école primaire, dès l'âge de 5 ans. Ils interviennent aussi au sein des MSF 95 sur les ateliers enfants. Et bien, dans une classe de 30 enfants, il y en a 3 qui sont concernés par des violences directes dans cette petite boîte aux lettres anonyme. Ils font un travail formidable. Ça s'appelle les Maltraitances. Moi, j'en parle et ils existent depuis près de 20 ans maintenant.
Merci, Maria. Merci pour toute cette foison d'informations. Céline, alors, on a parlé d'emprise, de contrôle coercitif. Aujourd'hui, c'est le contrôle coercitif est reconnu juridiquement. C'est une vraie avancée quand même.
C'est une vraie avancée. C'est un travail tout de même de longue haleine, puisque en matière judiciaire, c'est toujours la jurisprudence en fait qui va donner le rythme, si je peux me permettre l'expression, qui va consacrer juridiquement une notion qui a toute sa place au sein de la loi. Donc c'est d'abord les juges en fait qui consacrent, et puis ensuite la loi. Le corps législatif va reprendre ces notions qui vont apparaître tout de même à plusieurs reprises et au sein des diverses décisions qui peuvent être rendues. Et c'est vrai que la notion de contrôle coercitif, c'est notamment la Cour d'appel de Poitiers, avec des décisions du 31 janvier 2024, je me rappelle bien de la date parce que c'est tout de même marquant, sur le plan juridique. Et là, actuellement, cette notion va être... Je l'espère en tout cas, va être consacré. Il va y avoir un suivi sur le plan légal. Alors, la difficulté sur le plan législatif, c'est qu'on a des notions, tout comme la notion d'emprise, qui apparaît bien aujourd'hui dans les textes. Absolument. Mais la difficulté, c'est qu'on n'a pas toujours de définition précise. Et nous, professionnels du droit, en tant qu'auxiliaires de justice, en tant qu'avocates, en fait, on craint toujours que les magistrats aient peur d'appliquer une notion qui existe au sein de nos codes, au sein de la loi, mais qui n'a pas de définition précise. Si on ne donne pas une définition précise, les juges vont avoir cette crainte de l'appliquer. Est-ce que je l'ai utilisé à bon escient ? Est-ce que cette situation...
Il y a un flou,
y a un flou juridique. Et c'est pour ça que je dis que c'est un travail de longue haleine, parce que finalement, si on fait un peu le bilan au niveau des lois sur les violences faites aux femmes, c'est vraiment par étapes. On va consacrer... une notion, on va la définir, mais c'est toujours la jurisprudence, la pratique judiciaire qui va permettre de faire évoluer la loi. Et c'est ça aussi notre travail au sein de notre association, c'est de faire bouger les mentalités et les mentalités judiciaires et d'aider à faire consacrer légalement des notions qui sont absolument fondamentales, comme l'emprise, comme le contrôle coercitif, où je parlais effectivement, puisque avec ma co-auteure Miki Myang Paya, qui est présidente d'honneur de l'association Avocats Femmes et Violences, nous allons publier à nouveau notre guide pour actualiser, parce que évidemment, comme je disais, les lois bougent, et heureusement, mais on a besoin de cette mise à jour. Et l'idée, c'est vraiment, de encore une fois, de faire bouger les mentalités et d'essayer de combler ces vides juridiques qui existent encore à ce jour. Par exemple, l'ordonnance de protection. C'est un outil qui est fondamental, qui est essentiel pour protéger une femme, pour évincer le conjoint violent du domicile conjugal, parce que même si on dépose plainte, ça prend du temps sur le volet pénal. On va pas toujours avoir une réponse pénale déjà adaptée ou pas avoir une réponse pénale dans l'immédiat. Et l'ordonnance de protection, elle est là tout de même pour prendre le relais, finalement. Donc, c'est le juge aux affaires familiales qui peut ordonner cette éviction du conjoint violent. Mais il y a un vide juridique qu'on ne cesse de dénoncer. Et je l'espère, à travers la prochaine loi qui sera comblée, ce vide, c'est le cas d'une femme victime de violence, donc qui n'est ni mariée et qui n'a pas d'enfant. Elle pourra pas bénéficier d'une prorogation de l'ordonnance de protection. L'ordonnance de protection, depuis la loi du 13 juin 2024, elle est d'une durée de 12 mois. Si une femme est mariée et qu'elle dépose une assignation en divorce pendant ce délai de 12 mois, elle va pouvoir bénéficier d'une prorogation. L'autre situation, si une femme n'est pas mariée, mais qu'elle a des enfants et qu'elle va déposer une requête devant le juge aux affaires familiales pour faire fixer les modalités de garde, elle va pouvoir bénéficier de cette prorogation. Donc, si on fait le bilan, une femme qui n'est ni mariée et qui n'a pas d'enfant, mais qui a toujours une enquête en cours, par exemple, sur le volet pénal, elle ne sera pas bénéficiaire de cette prorogation. Et ça, à mon sens, c'est problématique. C'est
incroyable.
Elles sont pas sur un même pied
d'égalité. Une sorte de ségrégation, quelque part.
Absolument.
Oui,
depuis 2010, ça existe. C'est-à-dire, l'ordonnance de protection existe depuis 2010. Nous sommes en 2026. Et ce vide n'est toujours
c'est
pas
toujours complet. Toujours pas complet.
Et c'est l'un de nos combats, en tout cas, à l'heure actuelle.
Céline, vous avez évoqué une loi qui est passée là fin 2025. Est-ce que c'est cette loi qui fait qu'un enfant pourra être systématiquement accompagné d'un avocat ? Non, pas encore, c'est pas ça.
Alors, les enfants, effectivement, ce qui est important de préciser, dans toute procédure qui intéresse un mineur, le mineur a droit d'être entendu par un juge. Il a le droit d'être entendu par un juge aux affaires familiales. Lorsqu'un parent saisit le juge pour faire fixer les modalités de garde, ce parent qui saisit doit obligatoirement dire à son enfant qu'il a le droit d'être informé. Mais attention, un enfant en France ne peut être entendu, en tout cas devant le juge aux affaires familiales, que s'il a l'âge de discernement. Et l'âge de discernement, évidemment, que c'est propre à chaque enfant. Mmh. C'est difficile de donner un âge bien précis. B, ça tourne aux alentours des 9-10 ans. En dessous, c'est un peu plus difficile. Mais c'est pas si évident que ça, l'audition d'un enfant, parce que malheureusement, et quand on est dans la pratique, on peut constater qu'il est souvent sous l'influence de l'un des parents. Ça peut être sous l'influence du conjoint violent, d'ailleurs.
Absolument, oui.
Pour réclamer la garde, parce que c'est bien que sa garde va être menacée et remise en question. Ses droits vont être mis en question. Donc, il va, voilà, faire ce travail de manipulation de l'enfant. Et ça, c'est très complexe. Alors, on espère toujours tomber sur un juge aux affaires familiales qui a reçu la formation nécessaire, adéquate, pour déceler justement s'il y a manipulation, s'il y a emprise sur les enfants. Mais c'est pas toujours le cas, malheureusement. Devant le juge des enfants, il n'y a plus d'âge de discernement. Bien sûr, on ne va pas écouter un petit de deux ans, de trois ans, évidemment. Bien que parfois, je l'ai déjà vu en pratique, ça peut être à travers des dessins.
Des dessins.
Une fois, voilà,
oui.
Ils dessinent dans la salle d'attente et les juges aiment bien regarder ce que les enfants ont pu dessiner ou si les enfants veulent s'exprimer. Mais c'est vrai qu'un enfant à 5 ans va être entendu devant un juge des enfants. Ça, c'est possible.
Mmh, mmh.
Et au niveau des commissariats de police, il faut savoir, lorsqu'une femme victime de violence va déposer plainte, alors ça, elles le savent pas toujours. Moi, je les préviens. J'aime bien anticiper pour pas qu'il y ait de mauvaises réactions, de crainte, de peur, d'incertitude au niveau des différentes phases. Un enfant va être entendu. Un enfant de 6-7 ans va être entendu parce que parfois, c'est le seul témoin.
Mmh. Bien sûr.
Il y a une enquête de voisinage qui va être diligentée, mais les enfants sont au premier rang, malheureusement.
Merci Céline. Vous évoquez le commissariat. Moi, je voudrais rappeler le formidable travail qui est fait par Fabienne Boulard, major de police, qui fait de la formation dans les commissariats pour, justement, à l'accueil des commissariats, pour recueillir la parole des femmes qui viennent déposer plainte. Donc, elle fait un gros, gros travail et je lui rends hommage chaque fois que je peux.
Vous pouvez, c'est essentiel d'avoir une écoute vraiment attentive, bienveillante et d'être face à une personne qui est formée. Parce que là aussi, c'est une réelle difficulté de tomber toujours sur un officier de police judiciaire qui a bénéficié d'une formation en matière de violence faites aux femmes. Et c'est pas toujours le cas à l'heure actuelle.
Oui,
Je vous disais qu'il y a des brigades de protection de la famille, mais parfois elles vont être reçues par une personne qui n'a véritablement reçu aucune formation.
D'où le titre de votre livre, Madame, il fallait partir.
Absolument.
Oui, Mariam.
En complément de ce que vous êtes en train de dire, il faut savoir que sur le département du Val-d'Oise, dans les grands commissariats, notamment Cergy, Hermont et pour ne citer qu'eux, il y a une référente victime qui est souvent de métier assistante sociale, qui est formée, qui est rémunérée par l'État et elle est en binomage souvent avec une psychologue financée par le ministère de l'Intérieur. Et ces deux professionnels-là sont très précieuses parce que c'est elles qui font le trait d'union entre les victimes et les forces de l'ordre. Elles préparent au dépôt de plainte, elles préparent à toute la procédure, elles sont ultra bienveillantes et surtout elles sont formées à la question des violences. Et sur le plan départemental, on a une coordinatrice de ces 7 référentes-là, victimes sur notre département. Donc on a un département qui est très avant-gardiste sur la question des violences et qui est très riche, il faut quand même le rappeler.
95 d'ailleurs est à l'origine du bracelet
anti-rapprochement. Et puis le PAC Nouveau Départ,
depuis trois ans,
c'est sa troisième année d'expérimentation.
Oui.
On a démarré grâce à Isabelle Rome, qui était ministre à l'égalité des droits à l'époque.
Et puis Émilie Chandler.
Exactement, qui a lancé ça. Et aujourd'hui, on est sur la troisième année d'expérimentation et elle est plutôt, ou malheureusement, très concluante.
Mariam, Céline, Benoît, on arrive à la fin de cette émission. Alors moi, je voudrais citer des numéros d'urgence, donc le 3919 que vous avez cité, je sais plus qui l'a cité, je crois que c'est toi Mariam. Donc 3919 violence femme info qui est gratuit, anonyme, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a le 17 pour appeler la police ou la gendarmerie. Il y a le 116 006, c'est un numéro d'aide aux victimes, et le 119 pour l'enfance en danger. Je trouvais que c'était important de rappeler ces numéros. Et puis, le numéro de votre association, Céline, elle sera également dans la publication, dans le podcast. Je voudrais aussi, juste avant de vous donner un mot de conclusion, j'ai relevé des chiffres. En France, le coût global des violences conjugales atteint 2,5 milliards d'euros par an. Il inclut 483 millions en soins de santé, 355 millions de coûts liés aux services sociaux et judiciaires, 1000 millions de pertes de productivité entre l'absentéisme, le décès, etc. et 535 millions de coûts humains directs, violences, traumatismes. Donc voilà, c'est sont des chiffres qui donnent le tournis, c'est incroyable. Oui, Mariam.
J'avais un numéro à ajouter, si
oui,
tu me le permets, Jacqueline.
Bien sûr.
C'est le 3114 et c'est le numéro SOS suicide.
Ah.
Parce qu'on n'en parle pas.
Très bien.
Que dans les féminicides aujourd'hui, ce qui est comptabilisé, malheureusement, c'est les homicides, directs ou indirects, volontaires ou involontaires. Mais on ne parle pas des femmes qui mettent fin à leur vie. Et pour moi, c'est un féminicide. Voilà. Donc, le 3114, qui est le numéro d'urgence SOS suicide, si on est en détresse.
Absolument. Merci beaucoup. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Donc, un mot de conclusion par invité. Mariam, je te donne le feu vert.
Je dirais pour les victimes, osez libérer votre parole. Et pour les partenaires, les institutions, les politiques, les associations, les magistrats et les entreprises, continuons le combat.
Merci Mariam. Céline, j'ai oublié de vous remercier pour vos éclairages toujours très instructifs et puis bravo d'avoir pris le temps d'écrire des ouvrages et puis de nous tenir comme ça sur cette veille juridique en permanence.
Merci beaucoup.
Benoît, un mot de conclusion ?
Oui, pour dire aux victimes qu'elles ne sont pas condamnées à subir. En ce qui concerne mon cabinet, donc qui est axé sur les victimes de pervers narcissiques, vous pouvez aller sur le site donc www.divorce-du-6consulting.fr. Vous pouvez réserver directement un entretien pour faire un premier point de votre situation et voir comment sécuriser la séparation. Merci.
Merci Benoît. Céline, le mot de la fin est pour vous.
Le mot de la fin serait continuons la formation et l'information pour justement aider encore plus la parole des femmes à se libérer.
Merci infiniment. Merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre engagement, votre expertise et votre parole précieuse. Merci à Maison Solidarité Femmes 95, Divorce Consulting et à l'association Avocats Femmes et Violences pour votre travail quotidien auprès des victimes. Et puis, je voudrais remercier à nouveau la mission locale de Montmorency pour la réalisation des spots de prévention diffusés désormais depuis ce matin sur notre antenne. Voilà, l'économie en direct est terminée. Je pense qu'on pourrait refixer très vite un rendez-vous pour... Il y a tellement de choses à dire. Merci Francky pour la technique. Merci à nos auditrices et auditeurs de nous avoir été fidèles comme à chaque émission. Merci Margot. Merci Jeannot. Cette émission vous a intéressé, alors parlez-en avec votre entourage, sur vos réseaux ou le plus possible autour de vous et retrouvez son podcast sur le portail de la radio. Et nous, on se retrouve vendredi pour une nouvelle émission. Bonne journée et bonne semaine.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
On ne choisit ni son origine, ni sa couleur de peau. Comme on rêve d'une vie de château quand on vit le ghetto. Laisse les taux autour du cou comme Cosette pour Hugo. Étant treillis de conflits et prier le très haut. Fils du CO, NGO, cette NGO, M-I-C-R-O. J'ai le poids des mots, sortir d'en bas, rêver déchirer ce tableau. Fait d'armes, de larmes, fait de sang et sanglots.
Face à la mer, j'aurais dû grandir. Face contre terre, j'aurais pu mourir. Je me
cesse de semer, tristesse dans des yeux qui ne peuvent pleurer. J'ai beaucoup de rêves lointains, je me suis tant rebellé. J'ai bu beaucoup de baratin et ça m'a trop saoulé. Dans la vie, y'a des tapes au fond et des tapes à côté. Des tapes à un euro ou la tape à l'arraché. Y'a l'état, les RMistes, les tacas t'as fait. Si t'es en bas, faut cravacher, t'as qu'à pas lâcher. T'as pas connu ça toi, l'envie d'empocher des patates. Être à gauche, droite, face à la mer, loin des galères. T'as pas connu ça, l'envie de t'en sortir, distribuer des patates. Des gauches, droites, avec un air patibulaire.
Face à la mer, j'aurais dû grandir. Face contre terre, j'aurais pu mourir. Je me relève, je prends mon dernier rêve.
Tout de la et tout de déçu.
Je prends mon dernier rêve.
Face à la mer, c'est toi qui résistes.
C'est toi qui résistes.
Face contre terre, ton nom sur la liste de tout ton être. Si t'es à comparaître,
c'est l'histoire de cette plume qui s'étouffe dans le goudron. Cette matière grise dont le pays n'a pas fait acquisition. On se relève, on part à fond, on vise le Panthéon. J'en place une à ceux qui en ont, qui rêvent consécration. La dalle, la gnaque, je l'ai comme mes potes longs. On veut toucher le ciel étoilé sans baiser le pantalon. Trop peu de bonnes fées et trop de cendrillons. Calopatie 2004, action.
Face à la mer,
ouais,
j'aurais dû grandir. Face contre terre,
ouais,
j'aurais pu mourir. Je me relève, je prends mon dernier rêve.
On est tous deux déçus.
Je prends mon dernier rêve.
Tout de la même dalle, on vise tout de au-dessus.
Je prends mon dernier rêve.
On choisit ni son origine, ni sa couleur de peau. Comme on rêve d'une vie de château, quand on vit les taux. Laisse les taux autour du cou, comme Cosette pour Hugo. Est en prix, je comprends, et puis très beau. Cette NGO, M-I-C-R-O, j'ai pas les mots. Face à la mer, on veut tous grandir. Calopatie, trop jeune pour mourir.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Pourquoi t'es en retard? Je t'avais dit de rentrer à l'heure.
J'étais dans les bouchons.
Menteuse, tu me fais le coup à chaque fois. T'étais encore en train de me tromper, hein? Regarde-moi, sale p***.
Aïe, arrête, tu fais mal à maman.
Va dans la chambre, je te dis. Tu vas souffrir ce soir.
Les violences conjugales, ça commence quand?
Si vous pensez être victime, ne restez pas seul. Contactez le 3919.
Vous avez des questions d'ordre juridique? Les avocats du barreau du Val-d'Oise y répondent dans l'émission Tous les droits, le premier lundi de chaque mois, de 9h30 à 11h sur IDFM Radio. Envoyez votre question à l'adresse tldidfm@gmail.com et nous y répondrons à l'antenne.